Le rendez-vous avec Singapour en France, le festival. Venez découvrir la culture et les arts de Singapour à travers plus de 70 événements. Retrouvez toute la programmation sur singapour-lefestival.com.
Et tout de suite, le rendez-vous.
Il convenait maintenant de mettre à l'eau sa nouvelle embarcation.
La traversée a duré 36 heures.
Pour éprouver sa tenue en mer et assurer son étanchéité.
Quelques heures plus tard, il y a un qui a dit « Voilà une lumière là-bas !»
Eh bien, on fera toute la lumière ce soir dans le rendez-vous. En direct sur France Culture, il sera question de migrants, de théâtre documentaire, de récitants, de Pôle emploi et même des baleines. Avec Olivier Coulon-Jablonka, Camille Planier et Mamadou Diomandé, tous réunis pour 81 Avenue Victor Hugo, une pièce d'actualité qui donne la parole à 8 migrants d'Aubervilliers pour un théâtre documentaire. Benoît Lagane.
L'occasion de revenir sur une méthode théâtrale d'une compagnie brechtienne qui travaille l'actualité et le réel, tel Dachiel Hammett.
19h30, place nette à Xavier Delaporte pour sa chronique Place de la Toile. Ce soir au programme, Xavier, ce sera
Courtney Love et des chandelles.
Ah, enfin, on y arrive.
Parfait. À quoi?
Aux chandelles. 19h35, plateau récitant avec Denis Lavant au centre du projet Vendredi ou les Lames du Pacifique, une fiction pop de France Culture, un album avec l'Orchestre National de France et un spectacle prévu pour le Festival d'Avignon. Benoît?
Nouvelle aventure vocale et musicale de Denis Lavant, un comédien qui poursuit ainsi un genre qu'il apprécie, lui qui fut un adepte des lectures de Reggiani.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez, une édition spéciale ce soir. La culture, stratégie et enjeu pour le Front National.
Comme pour le monde enseignant, comme pour l'écologie, on a souvent dit que le Front National était étranger aux problématiques culturelles. Nous faisons une fois encore mentir les mauvaises langues. J'attache une attention toute particulière à ce qu'aucun sujet ne soit laissé de côté par notre mouvement et la culture n'est certainement pas un domaine que je laisserai à nos détracteurs.
La voix de Marine Le Pen. Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre dossier spécial du jour, un dossier consacré au Front National et à la culture, car au début du mois de juin, au début donc de ce mois de juin, le Front National a annoncé le lancement du CLIC, son collectif Culture, Liberté et Création, présidé par le transfuge de l'UMP Sébastien Chenu, avec un objectif, investir le champ de la culture, jusque-là délaissé par le FN.
Oui, alors on l'a entendu dans ce son, ça s'inscrit dans le cadre de plusieurs collectifs lancés en vue des élections de 2017. Il en existe déjà sur le domaine de l'éducation, de l'économie, de l'écologie par exemple. Et alors là, les membres du CLIC devront faire des propositions sur la culture pour que Marine Le Pen les intègre dans son programme présidentiel en vue de 2017. C'est la première fois que le FN investit aussi massivement cette question réputée difficile pour le parti. Elle le reconnaissait elle-même souvent. Mais c'est une démarche parfaitement cohérente avec la stratégie du parti, nous explique Nicolas Lebourg. Il est docteur en histoire, chercheur à l'Observatoire des radicalités politiques et à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste du FN.
Lancer aujourd'hui une association, un mouvement chargé de travailler les milieux culturels de la part du Front National, c'est tout à fait logique. On a vu lors des études sur le vote en 2012 que restait pour le Front National le problème de mordre sur les catégories dites intellectuelles. Les artistes, les chercheurs, les enseignants, les journalistes. C'est un milieu que le Front National doit prospecter parce qu'il y a des possibilités de progression, parce que la précarité est énorme dans les milieux culturels. Donc il y a des choses à leur dire de la part du Front National sur lesquelles il peut agir. Mais il a souvent du mal à le faire. Aujourd'hui, dans la structure du vote FN, par exemple, il y a toujours une surdétermination par rapport au niveau de diplôme. De même, les candidats du Front National sont souvent des candidats plus issus des milieux populaires que les autres partis politiques, en particulier par exemple que le Parti Socialiste. Donc, il doit les prospecter par là, tout simplement pour des raisons électorales et puis aussi, bien sûr, pour des raisons d'image.
Le lancement du collectif a longtemps été retardé et ne compte pas vraiment de personnalités marquantes.
Oui, il a tout juste été parrainé par Brigitte Bardot et puis qui dit toujours beaucoup aimer Marine Le Pen, mais dans ce clic, pas de grands noms, plutôt des ouvriers de la culture, quelques fonctionnaires, ni du côté des artistes, ni du côté des intellectuels. C'est peut-être pour cela, en effet, que le lancement a été temporisé, dans l'espoir de convaincre des gens sans pour autant y arriver. Mais Sébastien Chenu, qui est délégué national du Rassemblement Bleu Marine, président de ce fameux clic, tente d'évacuer la question, lui qui avait si souvent dit, avant ce lancement dans la presse, que les intellectuels étaient nombreux aujourd'hui à valider les idées du FN. Aujourd'hui, il relativise cette affirmation.
Alors je ne dis pas que les intellectuels défendent des thèses proches du FN, je dis que les intellectuels valident à travers leur travail, bien souvent, des constats que nous on fait politiquement. Quand je lis Houellebecq, Zemmour, Finkielkraut, même Maffezoli, Matzneff, Lévy, Polony, Kilina, qui sont nombreux, Gallo, bon, ils sont très nombreux à valider les thématiques de travail qui sont les nôtres et quelque part les problématiques sur lesquelles on met nous-mêmes le doigt. Maintenant, s'engager quand on est un artiste ou quand on est un intellectuel, c'est prendre un risque. On le sait très bien. Il y a dans un univers intellectuel et politique des pressions très fortes. Et quand on est en train de négocier un contrat d'édition, s'afficher aux côtés de Marine Le Pen, évidemment, ça fait bien souvent capoter les choses. Donc on a dans notre collectif, je pense, à des anciens membres de cabinet ministériel, de ministres de la culture de droite, par exemple, ou des hauts fonctionnaires, je pense à un DRAC de province, qui nous ont dit « Moi, je travaille ». Ils sont là à toutes les réunions. Ils étaient d'ailleurs là au lancement. Mais je ne veux pas que mon nom sorte. Mais la notoriété ne fait pas tout. Enfin, c'est pas parce qu'on est connu qu'on a du talent. C'est pas parce qu'on a une notoriété qu'on est productif. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des gens qui ont des idées et qui sont capables de les faire émerger.
Sébastien Chenu, que l'on vient d'entendre, est l'une des clés de la stratégie de Marine Le Pen pour conquérir les milieux de la culture.
Oui, car Sébastien Chenu, on l'a dit, c'est un transfuge tout récent de l'UMP. Il a quitté le parti juste après les élections municipales de Paris, où il était censé être tête de liste numéro 2 aux côtés de Nathalie Kosciusko-Morizet. Il vient de rejoindre donc le rassemblement Bleu Marine. Alors lui, il connaît extrêmement bien les milieux culturels. Il m'a d'ailleurs proposé de me rencontrer au café Beaubourg, lieu emblématique s'il en est. En off, il a parlé des nombreux spectacles qu'il avait vus et que j'avais certainement vus moi aussi. En le choisissant, Marine Le Pen sait très bien ce qu'elle fait, nous explique le chercheur Nicolas Lebourg.
Alors, ce qui est très symptomatique, c'est le fait que le Front National et Marine Le Pen aient décidé, là, de passer par des gens comme Sébastien Chenu, comme Gabriel Robin. Parce que c'est la deuxième fois que le Front National tente d'investir la culture. Au départ, il ne s'y intéresse pas du tout pendant longtemps. Il se dit, c'est pas notre milieu. Dans les années 90, il s'y intéresse, mais ce sont les radicaux autour de Bruno Maigret qui s'occupent de ça. Et autour de la culture, en fait, ce dont ils veulent parler, c'est de l'identité. Et rapidement, quand ils parlent de l'identité, eux, ce dont ils parlent, c'est de conserver l'âme de la France, c'est-à-dire une France qui se présente avérer des métissages biologiques et culturels. Donc c'est une pensée assez radicale, qui tourne souvent à la pensée ethniciste, et forcément ça ne mord pas bien dans le milieu. Là, le choix de Marine Le Pen, il est très différent. Il est de prendre, au contraire, des gens qui sont des modérés, des gens qui sont des transferts, des gens qui peuvent fréquenter les milieux artistiques, fréquenter les milieux gays, etc. Donc des gens qui peuvent correspondre au milieu chargé d'être prospecté, ce qui n'avait pas été le cas la dernière fois. C'est la volonté de pouvoir construire un parti présentable qui arrive à prospecter les segments sociaux de manière rationnelle.
Dans l'argumentaire de Sébastien Chenu, plusieurs propositions et une priorité, l'exception culturelle à la française.
Oui, alors il me l'a dit aujourd'hui, Sébastien Chenu, il considère qu'aujourd'hui le seul qui défend vraiment les vraies avancées en matière de la culture, souvent des avancées qui ont été faites justement par la gauche, c'est toute l'ironie, eh bien les seuls à les défendre aujourd'hui, c'est le Front National. Seul le Front National peut défendre cette exception culturelle à la française, qui rime forcément avec lui, avec préférence nationale, donc finalement le discours n'a pas vraiment changé.
Nous, on défend, et on a toujours défendu, on continuera de le faire face aux attaques auxquelles doit faire face, l'exception culturelle. L'exception culturelle, c'est en réalité la préférence nationale dans le monde culturel. Elle est unanimement reconnue. Aujourd'hui, on cherche à préserver l'offre culturelle française à travers un certain nombre de dispositifs. Les quotas, par exemple, des barrières douanières, par exemple. Donc nous, on considère que ça, c'est une piste de travail importante parce qu'elle est menacée. La préservation du spectacle vivant à travers un statut d'intermittent du spectacle qui doit continuer d'exister, qui doit être complètement revisité de fond en comble pour être maintenu. L'exception culturelle et derrière ça la rémunération des artistes sont des sujets sur lesquels, on le voit à Bruxelles, les attaques vont être de plus en plus nombreuses.
Voilà, et ce glissement conceptuel de exception culturelle à la française vers préférence nationale, en fait, il est tout à fait logique, très facile à faire, il représente une véritable aubaine et qui va peut-être permettre au FN de conquérir ce fameux milieu de la culture, nous explique Nicolas Lebourg, chercheur et spécialiste du FN.
Quand dans les années 90, le Front National commence à s'intéresser à la culture, il va aussi avoir des mairies. Donc on a des bilans des politiques culturelles de ces mairies qui ont été élues à ce moment-là. Très clairement, ce qui est investi, c'est la question de l'identité à chaque fois. En particulier, comme là ce sont des collectivités locales, la question des identités locales, du folklore, provençal, etc. Ça va être ça essentiellement leur politique culturelle. À l'échelle nationale, que dit le parti à ce moment-là, il y a quand même un accord qui se fait dans les années 90 dans toutes les scènes politiques, c'est qu'il y a une exception culturelle, qui est la seule question si vous y regardez, sur lesquels que vous soyez de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, tout le monde est d'accord en France. Donc, ils vont bien voir qu'il y a ça à investir aussi. Et donc là, le thème de l'identité va pouvoir aller avec le thème de l'exception culturelle et de dire, bah, vous voyez bien qu'il y a une préservation à avoir de la mondialisation, une préservation à avoir du mondialisme au nom de cette exception culturelle et au nom de notre identité culturelle. Et bien évidemment, le thème de l'identité, il est génial parce qu'ensuite, vous pouvez tout à fait le manier. Donc c'est un thème qui est très très souple et ça vous permet de conjuguer comme ça beaucoup de choses très différentes et de parler aussi bien aux modérés qui s'intéressent qu'à l'exception culturelle qu'aux types qui ont une conception de nationalisme ethnique.
Quelles sont les autres propositions du FN que l'on peut trouver ?
Alors, on en a d'autres. La fusion entre Radio France et France Télévisions, par exemple, dans le domaine des médias. La création d'un ordre des journalistes, desquels on pourrait se faire évincer. La volonté, je cite, de réduire le copinage dans les institutions, comme par exemple le Centre National de la Cinématographie. Mais on en revient toujours à cette volonté de soutenir d'abord et avant tout ce qui est français, notamment en ramenant les subventions, surtout au niveau local. Alors, j'ai évoqué avec Sébastien Chenu les 4 censures qui ont existé dans les mairies FN, où l'on trouve pareil, on ne trouve plus, par exemple, de journal Libération dans les bibliothèques municipales, ou la danse arabe ou le rap ne peuvent plus être enseignés dans les associations de quartier. Je lui ai demandé ce qu'il en serait si le Front National, comme il dit, arrivait aux affaires. Écoutez-le.
Mais c'est pas aux politiques de dire ce qu'ils pensent, s'ils pensent qu'un artiste fait un bon travail, un mauvais travail. On n'est pas des censeurs. En revanche, c'est aux politiques, à la sphère publique, d'aligner les possibilités pour la culture française de s'expatrier, d'être valorisée, de ne pas être attaquée, de se développer, etc. Après, dire si j'aime ce que fait Kapoor dans le jardin de Versailles, par exemple, tout le monde s'en contrefiche. Il se trouve que je trouve que c'est pas terrible, que ça n'a pas forcément sa place, mais c'est pas à moi de l'interdire ou de le valoriser. En revanche, dès qu'il y a de l'argent public, c'est le cas à Versailles, on peut imaginer que valoriser la culture française doit primer sur valoriser une œuvre qui n'a pas forcément sa place. L'art a différentes formes d'expression. Les musiques dites actuelles, l'art contemporain, le rap peuvent en être, mais on n'a pas d'obligation à les soutenir. Un homme politique n'est quand même pas encore obligé de subventionner, de soutenir tout et n'importe quoi.
Voilà, alors il se trouve que par ailleurs, après ce plaidoyer un peu contre le rap, eh bien, il y a 2 jours, Marion Maréchal-Le Pen, sans ne pas être d'accord, puisqu'elle a déclaré elle-même qu'elle était fan de rap, et notamment du groupe Section d'Assaut, ce qui a aussitôt suscité un véritable tollé dans les milieux radicaux du rassemblement Bleu Marine. Le CLIC, en tout cas, doit faire des propositions dans les semaines qui viennent.
Merci Zoé, peut-être des réactions de la part de nos invités. Je ne sais pas, je les regarde au fond des yeux. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre ?
Oui, peut-être que...
Olivier Coulon-Jablonca, metteur en scène.
On a vu dans l'histoire que la culture, elle n'empêchait pas la barbarie. Voilà, et peut-être qu'il faut changer aussi notre discours en face. Que la culture, elle ne peut pas toujours en appeler à un pacte républicain, à un élan de citoyenneté, comme si la culture suffisait à créer de la communauté, quoi.
Denis Lavant, peut-être une réaction ?
J'ai dit une comédien. Bêtise.
Allez-y.
Moi, je dis, quand j'entends le mot culture, je sors mon pistolet à eau.
Vous êtes... Ah, à eau ! Parce qu'il y en avait d'autres qui vraiment sortaient leur carabine.
Parce que je trouve, parce que moi, il y a un surcroît de sérieux quand on parle de culture. Et tout le monde, la culture, le terme de culture, on ne sait plus très bien de quoi il s'agit. Et c'est pris en otage, comme on l'entend, là, par le FN, par n'importe quelle bord, c'est quelque chose... Moi, la seule manière dont j'entends... La culture, pour moi, l'homme, le poète qui le définit le mieux, c'est Artaud dans la préface du Théâtre et son double, où il est décrit comme quelque chose d'absolument nécessaire et d'identité, en même temps d'une manifestation qui est une manière de se donner du soin, de donner du soin au corps, de donner du soin à l'âme, d'avancer, d'utiliser tout ce qu'il y a de racines, de rapport fondamental de l'homme à la terre. Et voilà, moi j'entends rien d'autre chose, donc effectivement ça me fait doucement rigoler quoi.
Merci Zoé, j'imagine que ce dossier spécial, on peut l'écouter.
On le retrouvera évidemment sur internet, vous pourrez le podcaster.
Le potasser.
Potassez-le justement, vous pourrez le lire et même découvrir certains extraits de sons que je n'aurais pas eu le temps de passer ici, c'est sur le site de France Culture. Le rendez-vous.
Voilà pourquoi j'ai dit ici, beaucoup d'hommes ne le savent pas, le seul truc pour gagner, c'est la lutte.
Plateau pièce d'actualité avec vous, Olivier Coulon-Jablonka. Vous êtes metteur en scène, cofondateur de la compagnie Mukden Théâtre au milieu des années 2000. À vos côtés, Camille Planier, cinéaste. Vous avez co-signé ensemble, vous êtes trois d'ailleurs, hein, 81 avenue Victor Hugo. C'est une pièce de théâtre qui met en scène 8 migrants sans papier, âgés entre 25 et 50 ans. 7 francophones, un anglophone qui loge dans un ancien local de Pôle emploi à Aubervilliers. Ces migrants racontent leur propre histoire sur scène. Ils viennent de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bangladesh. Parmi eux, il y a vous, Mamadou Diomandé. Vous venez d'où exactement ?
La Côte d'Ivoire. Je suis varié.
Et vous êtes arrivé en France à quel moment précisément ? Il va falloir vous rapprocher du micro.
Je suis arrivé en France en 2010. Donc j'ai transité par l'Italie. Voilà. Donc j'ai effectivement traversé de la Libye en Italie. Donc, j'ai atterri à Lampedusa. Et voilà.
C'est tout ça qui est raconté dans la pièce. Encore une question, puis on va entendre vraiment une atmosphère, enfin un montage de notre réalisateur Thomas Bou pour comprendre les enjeux véritablement de la pièce. Quelles étaient les raisons de votre départ, vous ?
Mais les raisons étaient multiples. Hein. Et la première raison était la raison économique. Il y avait la raison économique. Ensuite, il y a eu le conflit, la crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, qui est connue de tous. Hein. Donc, on est obligé de quitter le pays en catastrophe et venir à l'aventure. Voilà.
Ce parcours, on peut l'entendre dans 81 avenue Victor Hugo, extrait.
I know I'm going to Italy.
La traversée a duré 36 heures.
Oh. I think Olala, it is my dream country, Olala.
Je leur ai dit qu'autour de 8h30 le matin, vous devez voir la lumière de la plateforme d'extraction de pétrole.
I go to Italy, it will be life. I can send money to my parents.
À 9h, il y en a un qui a dit, oh, voilà une flamme là-bas, voilà une flamme là-bas.
Cette porte était destinée à toi seul. Maintenant, je pars et je vais la fermer.
Mesdames et messieurs, c'est la police. Maintenant, vous sortez, c'est la police.
Oh, déjà.
Venez vos appels.
On a été expulsé du passage de l'avenue au petit matin par la police. Ils arrivent toujours à 5h du matin. C'est la panique.
Mais qu'est-ce qu'on doit faire ?
Non, monsieur, vous ne rentrez plus, c'est fini. Vous êtes dehors.
Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Cette porte était destinée à toi seul. Maintenant, je pars et je vais la fermer.
Et si vous connaissez la police, hein ? Quand il y a beaucoup de noirs quelque part, forcément, ils vont venir. Voilà pourquoi j'ai dit ici, beaucoup d'hommes ne le savent pas. Le seul truc pour gagner, c'est la lutte.
J'étais plumeur la tête, j'étais plumeur la tête, à la tête, à l'ouette, à la...
Souvent, il y en a qui se disent, ah, si c'était comme avant. Tu te débrouillais pas mal au pays, mais si tu viens ici comme ça, tu te mets encore dans la merde. C'est le destin, c'est comme ça, il faut accepter tout.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous sommes des sans-abri.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
C'est le point clé.
Open the door.
C'est la lutte des sans-abri.
Open the door.
Cette porte était destinée à toi seul. Maintenant, je pars et je vais la fermer.
Olivier Coulon-Jablonka et Camille Planier, ce spectacle qui sera présenté au Festival d'Avignon en juillet est né après votre rencontre avec le collectif 81 avenue Victor Hugo d'Aubervilliers qui est soutenu par le DAL, l'association Droit au Logement. Qu'est-ce qui s'est passé lors des premières rencontres qui a pu déclencher l'idée même de la pièce ? Olivier Coulon-Jablonka.
Oui, il y a eu comme un sentiment d'évidence en fait pour nous quand on a rencontré le collectif qui était très structuré, qui était en lutte, et on s'est dit qu'il était tout à fait juste que le théâtre, pour cette commande de pièces d'actualité...
Passer par le théâtre de Bavilliers. Hein.
Voilà, parce que c'est une commande hein, de travailler avec des habitants et des amateurs, et que il était tout à fait juste que le théâtre se mette au service de la lutte de ces personnes. C'est-à-dire qu'on a senti aussi pour eux que... ils allaient aussi pouvoir utiliser le théâtre pour se faire entendre.
Mamadou Diomandé, c'est la première fois, j'imagine, que vous êtes sur scène.
Oui, c'est la première fois sur scène.
Comment ce projet vous a été présenté à vous ? Vous saviez, quand vous les avez rencontrés, qu'il y avait un projet de théâtre ?
Eh bien, effectivement, quand ils sont arrivés, oui, ils nous ont fait donc la proposition, parce ouais. que nous... nous tenions des réunions hebdomadaires là, avec les soutiens, les associations qui venaient nous soutenir. Donc, et je crois que c'est à une de ces réunions-là qu'ils sont venus, ils nous ont fait la proposition du théâtre. Voilà. Et puis, en ma qualité de responsable du collectif, donc, j'ai soumis à l'approbation du collectif. On a étudié l'association, on s'est dit, mais voilà, qu'il fallait diversifier
les actions.
Donc, c'est ce qu'on a fait. On a essayé le théâtre. Et ça a été, ça a donné, voilà, c'est le coup des pieds qui est devenu le coup des maîtres.
Comment se sont passées les répétitions? Comment vous avez travaillé justement? Puisque c'est pas un témoignage sans, c'est face au public, mais pour autant c'est pas un témoignage linéaire, c'est-à-dire qu'il y a une dimension chorale dans le spectacle. Olivier Collonge-Blanca ou
oui, pour nous c'était très important avec Camille et Barbara d'arriver avec un texte déjà écrit. On savait qu'on avait très peu de temps, donc il y a eu un long temps sur l'année où on s'est beaucoup parlé, on a enregistré les entretiens. Et en effet, on avait une contrainte, on voulait que ce soit choral et en même temps on savait qu'il fallait jouer avec des partitions individuelles. Donc c'était un équilibre un peu particulier. On était très heureux aussi de partager ce texte avec eux. Je crois que voilà, y compris sur un petit prologue de Kafka, voilà, qui vient au début.
Ça commence par la loi, la parabole de la loi, hein, qui voilà, est racontée par Mustapha Cissé.
Voilà, et c'est aussi des choses qu'on a partagées. C'est-à-dire, il y a eu comme des séances aussi où on a vérifié certaines hypothèses de travail avec eux pour voir si, voilà, notamment sur ce texte de Kafka, est-ce que ça leur racontait quelque chose.
Et alors, ça vous racontait quelque chose ce texte de Kafka, Mamadou Diomandé? Par rapport à la situation, j'imagine.
Ben oui, effectivement. Si on a choisi ce texte, c'était pas par hasard, parce que ça répondait effectivement à nos problèmes, quoi, aux problèmes que nous avions, justement. La porte de la loi, par exemple, la porte de la loi. Le monsieur qui arrive, qui insiste, qui veut rentrer, le gardien qui l'empêche de rentrer. Il insiste, et on finit par lui laisser la porte de la loi. Donc, c'est, voilà, comme les immigrés, voilà, qu'ils insistent, et finalement, ils font des traversées, ils passent des frontières, ils arrivent, ils vont où ils veulent aller. Voilà.
Denis Lavant, un commentaire ou des questions par rapport à ce que vous pouvez entendre?
Non, moi, je trouve ça intéressant, effectivement, ça comme entreprise, quoi, faire du vivant, quoi. Le problème d'aujourd'hui, même je trouve, ouais, de mettre ça en abîme avec Kafka, je trouve, ouais. Ça, c'est de faire résonner ça avec Kafka, je trouve ça vraiment intéressant. Enfin, je suis curieux de voir, il faudrait que je voie le spectacle.
Bah, vous le verrez, vous serez à Avignon, c'est peut-être, à peu près au même moment.
Je suis là 2 jours, justement.
Il faut rester un peu plus longtemps.
Dans quel lieu?
C'est au gymnase du lycée, ouais, Saint-Joseph.
Saint-Joseph, pas au Bagne.
Voilà.
Ah oui, qu'est-ce qu'il y a de proprement kafkaïen que vous avez entendu justement dans leur parcours et dans leur récit qui vous aurait marqué, Olivier?
Oui, la plupart sont des agents de pas uniquement, mais beaucoup sont des agents de sécurité. Donc ils sont à la fois des agents de la loi et mis dans une situation permanente d'illégalité. Donc déjà, voilà, ça c'est quelque chose, nous évidemment, qu'on avait envie de mettre en jeu au plateau. Il y a l'un d'eux qui dit Conné, qui raconte comment il travaille aussi au tribunal, à la sous-préfecture, voilà, qu'on l'a aussi envoyé dans un centre de rétention pour faire la sécurité. Donc cette figure, en effet, du gardien de la loi, elle est présente chez Kafka et elle nous accompagne tout au long du spectacle.
Il y a aussi une autre dimension qu'il faut prendre en considération, c'est la condition économique. Comment vous avez résolu la question du salaire des comédiens, puisqu'ils sont sans papier?
Oui, c'était un des points de départ du projet aussi. Hein. Vous voyez, c'était aussi remplir une commande et la faire exploser en plein vol,
c'est-à-dire. Oui. Parce que ça pose véritablement problème.
Oui, mais c'était l'enjeu du spectacle qu'on a partagé très rapidement, en fait, avec la direction d'Aubervilliers. Il n'y a jamais de solution, en fait. C'est-à-dire que le théâtre s'est quand même mis dans une situation un peu paradoxale. Hein. Voilà. Enfin, il n'y a pas de bon cas de figure. Hein,
Les comédiens sont quand même payés.
Les comédiens ont été payés, mais peut-être qu'on va pas révéler non, Camille.
Ils ont été payés. En fait, ça a été fait au chapeau.
Camille Planier.
Voilà. Ouais, ça a été fait au chapeau. C'est-à-dire après le spectacle, on expliquait justement la situation paradoxale dans laquelle on était, et on demandait au public. Le spectacle était gratuit parce qu'on n'avait pas le droit de faire une billetterie puisque il n'y avait pas de contrat. Voilà. Donc on demandait au public de donner un peu d'argent dans un chapeau, et après tout le monde a été payé, et le théâtre a lui trouvé l'argent pour que les salaires.
Dans l'esprit du théâtre, c'était vraiment une façon de montrer l'absurdité de la loi. C'est-à-dire que ils sont payés au chapeau, mais il était dit que, voilà, normalement, au bout d'une certaine série de représentations, on n'est plus dans le cadre de théâtre amateur. Donc nous, on n'était plus dans le cadre du théâtre amateur. Donc normalement, les gens sont censés avoir des contrats de travail. Donc le théâtre se mettait quand même dans une situation d'illégalité, voyez, mais tout en le mettant en lumière vis-à-vis du spectateur, voilà, dans un épilogue, on va dire.
Benoît Lagan. Au-delà de la possibilité que cette pièce offre finalement au spectateur de prendre conscience de ses parcours et de ses situations, quel rôle concret politique attendez-vous de votre pièce ?
Écoutez, nous on va à Avignon parce que la lutte elle continue pour ce collectif, donc ça a encore du sens pour nous. Les acteurs cette fois-ci auront un contrat de travail, un titre de séjour. Voilà, mais le mieux, c'est que Dieu mandé peut-être raconte aussi où ils en sont. Mais voilà, en tout cas, rien n'est résolu à ce jour.
Qu'est-ce que vous attendez de cette pièce, du théâtre, et où vous en êtes justement
d'abord,
aujourd'hui?
Notre objectif, premier participant en faisant cette pièce, en faisant cette pièce, était deux. On avait deux objectifs. C'était le premier objectif, c'était d'être régularisé. Parce que nous n'étions pas régularisés, on n'avait pas de documents. Et puis le second point était le logement. Donc aujourd'hui, grâce au théâtre, je dirais, grâce au théâtre, la régularisation est en cours. Donc le préfet a été invité au théâtre lui-même, donc a compris notre situation, donc l'a analysé. Et il nous a invités à la préfecture, on a discuté, et à l'issue de cette discussion, il a décidé de régulariser tout le collectif. Et donc, la régularisation est en cours. Moi, personnellement, je suis déjà régularisé, tous les acteurs sont régularisés. Il y a de nouvelles convocations qui viennent d'arriver, et ces personnes seront régularisées entre les deux. Et il a promis régulariser tout le collectif. 80 que nous sommes, seront tous régularisés avant la fin du mois de septembre. Donc, le théâtre nous a apporté beaucoup. Moi, nous, personnellement, on est venu au théâtre parce que on voulait tout simplement être régularisé, avoir un abri, voilà, demain. Parce qu'il faut être régularisé pour pouvoir prétendre faire une demande de logement. Et donc, voilà, maintenant que nous sommes en train d'être régularisés, je crois que le logement suivra après. Donc, on a compris que le théâtre nous pouvait apporter beaucoup.
Voilà. Vous aimez jouer sur scène ?
Ben, vous savez que l'appétit vient en mangeant, donc voilà. Et puis, comme je l'ai souvent dit, c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, nous sommes partis d'une situation d'immigrés, de squatteurs, et aujourd'hui, pour devenir des artistes amateurs. Donc, pourquoi pas des professionnels demain ?
Venir avant ? Non, c'est la question que je voulais vous poser en dehors de l'acquis social. Ouais. Est-ce que vous êtes heureux de découvrir le théâtre, quoi, de jouer ? Est-ce que c'est une découverte en plus, quoi ?
Ah oui, bien sûr. Est-ce que c'est une découverte en plus ? Surtout, surtout le collectif. Le collectif dans son entièreté. Parce que aujourd'hui, à partir de cette pièce, c'est tout le collectif qui a envie de faire du théâtre.
Ah, c'est ça
qui est chouette. Parce qu'on a compris que le théâtre peut apporter beaucoup. Et qu'on n'avait pas auparavant l'occasion de nous exprimer comme on s'exprime devant le public maintenant. Et le théâtre nous a donné cette occasion, je dis qu'on remercie le théâtre, le metteur en scène d'ailleurs, et la directrice du théâtre et toute l'équipe. Quoi.
Mmh. Olivier Coulon-Jablonca.
Oui, juste rajouter une petite chose. C'est vrai que ce qui était très beau, c'est qu'ils ont saisi la branche. Mais en même temps, il ne faut pas relire l'histoire à travers le dénouement. C'est-à-dire que... rien ne garantissait, et encore aujourd'hui, on attend de voir réellement que tout le monde ait le titre de séjour, car rien n'est fait. Et encore une fois, dans le travail, évidemment qu'on s'agrippe aux branches, on essaye, on part à l'aventure, voilà, qu'il y avait l'enjeu évidemment d'une régularisation, mais c'est quand même un dénouement, enfin un coup de théâtre même.
Un coup de théâtre, véritablement. Voilà, comme à tous nos invités, Mamadou Diomandé, on vous a demandé un son qui vous a marqué, et voici ce que vous avez choisi.
Oui, chez moi, les jeux se suivent aussi ressemblent, comme beaucoup de jeunes Africains. L'impression que mon avenir se trouve derrière moi. Encore un autre jour. Oui, aujourd'hui, j'ai fait mon sac. Ma décision est prise.
Alors, qu'est-ce qu'on écoute et pourquoi vous avez choisi cela, Mamadou Diomandé ?
J'ai choisi ce morceau parce que...
C'est quoi comme morceau?
C'est un morceau d'Ismaël Isaac, c'est Je reste. Et ce morceau est plein de sens parce qu'il explique un peu le motif, ce qui amène les gens à s'aventurer. Et, vous voyez, vous comprenez, c'est une question d'honneur, voilà, de dignité. Parce que quand vous êtes au pays, que vous avez des amis qui viennent, qui vont à l'aventure et qui viennent, qui font des réalisations, vous n'avez rien, vous êtes issu d'une famille pauvre, vous voyez vos parents qui sont là, qui n'ont rien, mais vous êtes obligé de... Quelquefois, vous prenez la décision de partir, c'est ce qu'il dit dans son livre. Je préfère mourir dans la mer que souffrir devant ma mère. Voilà.
Olivier Coulon-Jablonka, vous aussi, on vous a demandé un son, et voici ce que vous avez apporté.
E la classe degli scialli neri di lana, dei grembiuli neri da poche lire, dei fazzoletti che avvolgono le facce bianche delle sorelle. Delle attese cristiane, dei silenzi fratelli del fango e del grigiore dei giorni del pianto. La classe che dà supremo valore alle sue povere mille lire e su questo fonda una vita, pena capace di illuminare la fatalità del morire.
Identification de ce son, Olivier Coulon-Jablonka. Qu'est-ce qu'on écoute et pour quelle raison?
Donc on écoute un extrait du film L'Arabia, la rage de Pasolini. Donc Pasolini, c'est quelqu'un que j'aime bien.
Que vous avez monté.
Voilà, que j'ai monté.
Très rapidement à vos débuts.
Que je relis souvent. Et La Rage fait partie de mes films vraiment que j'aime beaucoup. Voilà, ça change avec le temps, mais vraiment, La Rage, ces dernières années, c'est quelque chose qui m'a accompagné.
Et c'est quoi le texte?
Denis Lavant.
Le texte, la traduction.
C'est Pasolini, c'est de Pasolini?
Oui. Ah. Et... Dieu m'en dit, il a été en Italie, alors je sais pas, moi j'ai le livre sur moi, mais peut-être que...
Oui, mais ce texte, j'ai compris seulement qu'il faisait des comparaisons. Oui. Il parlait des fassoletti, une faracha, il parlait des feuilles, donc qui faisaient du bruit, qui passaient juste... Et voilà, il parle de la vie, quoi, en grosso modo, quoi, de la vie...
Oui, et de la classe des opprimés, des gens qui ont
des opprimés, donc voilà.
Le rendez-vous, la chronique.
Olivier Coulon-Jablonka, Camille Planier, Mamadou Diomandé, Denis Lavant, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite c'est la chronique Place de la Toile, en partenariat avec Rue 89, dont vous êtes le rédacteur en chef. Cher Xavier Delaporte, ce soir...
Vérifiez bien mon nom, là, sur le papier. Parce que c'est vrai que vous aviez l'air un peu d'hésiter.
Oui, oui, il y a d'autres prénoms qui arrivent.
Alors, vous avez forcément entendu parler de la grève des taxis qui s'est déroulée aujourd'hui dans plusieurs grandes villes de France. Les heurts, la demande d'interdiction d'Uber Pop à la préfecture de police par le ministre de l'Intérieur et le tweet rageur de Courtney Love. Vous savez, c'était la veuve de Kurt Cobain, chanteur de Nirvana. Tweet donc de Courtney Love à François Hollande, dégoûté que des œufs aient été lancés sur son Uber. On pourra au passage s'amuser de l'indignation de l'ancienne punk au lancer de quelques œufs sur sa voiture. Mais si elle a gardé un côté punk, c'est dans l'insulte puisqu'elle a traité les taxis de talibans. Au-delà de tout ça, ce qui se passe, il y a un peu de confusion mentale chez Courtney Love. Au-delà de tout ça, ce qui se passe avec Uber est absolument passionnant, contrairement à ce que pensent certains de nos lecteurs ronchons. Si on parle autant de Uber sur E89, mais d'ailleurs c'est pas simplement sur E89, mais c'est dans tous les médias et dans le monde entier, c'est parce que Uber symptomatise un problème qui dépasse largement Uber lui-même. Ce problème... Il est très débattu partout. C'est l'irruption dans un secteur économique d'un nouvel acteur qui perturbe le marché parce qu'il se défait des règles en cours, et en particulier du droit du travail, et qu'il s'impose parce qu'il est plus adapté, plus efficace et moins coûteux. Ce problème dépasse Uber donc, et c'est pour ça qu'on parle déjà d'ubérisation. Il dépasse même l'économie, c'est pour ça que certains commencent à parler d'ubérisation de la vie politique, et même, je l'ai lu récemment, ubérisation du droit. Peut-être qu'un jour on parlera d'ubérisation de la radio, ou ubérisation de Goumar. Mais ce qui est tout aussi, d'ailleurs je vous ai déjà ubérisé en fait,
moi, c'est ça le problème. Je suis complètement ubérisé.
Ce qui est tout aussi passionnant que le problème en lui-même, c'est toutes les manières qu'on trouve pour le caractériser. C'est toujours le problème quand quelque chose de nouveau arrive, il faut trouver des mots et des analogies pour le caractériser. Certains se rappellent l'arrivée des gratuits dans la presse. Au début des années 2000, le tabassage de pauvres jeunes gens qui les distribuaient, ces journaux gratuits, par des ouvriers du livre et des stocks de journaux gratuits, donc brûlés en pleine rue. D'autres remontent, toujours pour comprendre Uber et l'ubérisation, d'autres remontent un peu plus loin à l'arrivée des supermarchés qui écrasent les commerces de proximité. D'autres remontent encore plus loin aux ludites, ces ouvriers du textile qui, dans l'Angleterre du début du 19e siècle, s'étaient rebellés contre l'arrivée des machines à tisser et en avaient brisé sous la conduite d'un chef un peu légendaire, le général Ludd. Et sans doute, en fouillant, on pourrait trouver encore d'autres analogies historiques. Le fait est que le résultat de ces conflits est carrément déprimant pour ceux qui tentent de maintenir l'ordre ancien. Et certains, d'ailleurs, pour illustrer cela, vont jusqu'à se référer à cette fameuse pétition des marchands de chandelles, un très beau texte. Un texte que l'économiste Frédéric Bastiat avait écrit en 1845 pour dénoncer le protectionnisme et promouvoir le libre-échange. C'est un texte très drôle mais très cynique, dans lequel des marchands de chandelles, donc des faux marchands de chandelles, hein, fictifs, demandent à être protégés par l'État contre un rival tout puissant car beaucoup moins cher et plus performant, à savoir le soleil. On voit bien que tous ces exemples, même involontairement, visent à considérer la victoire du modèle Uber comme absolument naturelle, comme dans la logique des choses, comme allant dans le sens de l'histoire. Et donc, la question qui se pose à nous, c'est celle de l'inéluctabilité. Je savais que j'allais pas réussir à le prononcer.
Allez, refaites-le. C'est difficile.
Vous ne voulez pas faire Denis Lavant parce que vous savez parler ?
Inéluctabilité.
Ok, parfait. C'est ça d'être comédien. Et de son acceptation, ça c'est plus facile. Et ce qui est particulièrement frappant dans ce cas, et qui rend notre dilemme lui aussi plus frappant, c'est que aucun des deux mondes n'est plus désirable que l'autre. Les taxis sont détestés, pas toujours pour de mauvaises raisons, et Uber est détestable, toujours pour de très bonnes raisons. Il suffit pour ça de lire les déclarations de son patron qui est vraiment une ordure. Alors, que faire ? Je le dis ça parce que comme il est américain, jamais il dira rien.
Ouais, mais Courtney-Love lui dira.
Ah, peut-être.
Petit taliban.
Ouais. Alors, que faire ? Je ne sais pas, mais tout ça a l'avantage de faire de cette question une question politique assez pure.
Merci Xavier Delaporte. On
vous
se retrouve la
Xavier
semaine prochaine.
Hop, vous avez, vous avez non, pas
j'ai même pas vu, vous voyez. J'ai tellement tout compris
vous
que cette fois-ci...
en 3 minutes.
Le rendez-vous.
Il convenait maintenant de mettre à l'eau sa nouvelle embarcation pour éprouver sa tenue en mer et assurer son étanchéité. Robinson décida de procéder au lancement. Mais il ne fut pas autrement surpris de l'impossibilité de traîner jusqu'à la mer cette coque qui devait peser plus de 1000 livres. Ce fut l'occasion pour lui de découvrir un aspect important de la métamorphose que son esprit subissait sous l'influence de sa vie solitaire. Il lui devenait de plus en plus difficile de songer à plusieurs choses à la fois.
Plateau, mais quelle voix, Denis Lavant, comédien, cinéma au théâtre et radio, puisqu'on vous entendra dimanche prochain à 21h sur France Culture dans Vendredi ou les Limbes du Pacifique de Michel Tournier. C'est un projet de la nouvelle collection de France Culture. Fiction pop. L'œuvre est mise en musique aussi par Romain Humeau et l'Orchestre National de France. Ça fera l'objet d'un album qui sortira lundi prochain sous le label Piace et le spectacle sera présenté au Festival d'Avignon en public le 17 juillet prochain. Juste un mot sur cette tradition discographique des récitants. Je crois savoir que c'est en écoutant Serge Reggiani qui récite Le Déserteur de Vian ou Le Dormeur du Val de Rimbaud que vous auriez eu envie de devenir comédien.
Entre autres, ouais. Mais c'est vrai que j'étais très... très impressionné et séduit par des disques, des vinyles à l'époque de Reggiani qu'écoutaient mes parents, où il introduisait des chansons. Effectivement, il y avait le Dormeur du Val qui disait très très bien avant Le Déserteur, et aussi pour Mirabeau, et les voix parlées comme ça, les enregistrements de voix parlées, ça m'a vraiment donné envie de dire des poèmes, quoi, de savoir des poèmes et puis de les restituer. Et Lorca aussi, je me souviens d'un enregistrement des chants funèbres de Lorca. Puis l'histoire du soldat aussi, de Ramuse. Truc entre toujours un peu entre la musique et la poésie, finalement.
Extrait.
Les jours qui suivirent, il les employa à signaler sa présence par tous les moyens que lui présenta son imagination. Tournant le dos obstinément à la terre, n'avait Dieu que pour la surface bombée et métallique de la mer, d'où viendrait bientôt le salut. La vaste plaine océane le fascinait et lui parut que l'île, ses rochers, ses forêts, n'étaient que la paupière et le sourcil d'un œil immense, bleu et humide, scrutant les profondeurs du ciel. Cette image l'obséda au point qu'il dut renoncer à son attente contemplative. Il se secoua et décida d'entreprendre quelque chose. Construire un bateau de tonnage suffisant pour rallier la côte. Il décida de faire une incursion dans l'épave de la Virginie pour tenter de rapporter des instruments et des matériaux utiles à son destin. Il réunit à l'aide de lianes une douzaine de rondins en un grossier radeau.
Alors, Denis Lavant, comment vous avez travaillé la musicalité du texte? Comment vous avez posé la voix? C'est venu comme ça ou ça a été vraiment travaillé précisément avec le musicien?
Non, justement, c'est assez particulier parce que finalement l'initiative vient quand même de Romain Humeau à qui on a proposé ce chant et puis qui aime beaucoup ce livre, donc Vendredi ou les Lames du Pacifique de Tournier. Et donc il a fait de la musique. Moi je suis arrivé en fait en cours de travail. Curieusement, on s'est même pas vu avec Romain. On a eu un peu un échange de mails, mais moi je suis pas tellement mail. Donc c'est-à-dire je suis arrivé, puis on a beaucoup travaillé avec la musique déjà faite en studio avec Alexandre Planck qui a dirigé le projet. Et moi je travaille sur le texte. Forcément sur comme un musicien sur ma partoche. Donc j'ai travaillé chez moi quoi à voix basse. Et puis sur deux jours comme ça, on l'a posé comme on peut dire quoi, de poser le texte avec une direction très exigeante de la part d'Alexandre.
À quel niveau?
Je sais pas, tous azimuts. Au niveau de la définition du rythme, parce qu'il y a deux, si vous voulez, il y a deux modes dans l'écriture. Il y a le récit proprement dit d'un narrateur qui est extérieur à Robinson, et puis il y a ponctuellement le journal de Robinson. Donc c'est deux tons. Il y a un ton qui est un peu lyrique, poétique. Il y a un ton qui doit être plus quotidien. Entre guillemets quoi, je sais pas, et puis voilà quoi, puis je sais pas pourquoi, mais c'est pas ma voix parlée comme vous l'entendez.
Exactement,
j'ai tendance à partir dans des fois quand j'enregistre des choses, ouais, à aller plus loin, plus profond, à chercher une autre voix. Ben c'est qui est antinaturel, mais c'est une stylisation forcément, comme quand je joue un personnage, c'est pas ma voix de quand je vais faire les cours, j'ai pas la même voix que quand je parle sur scène. Il y a comme ça une transposition, oui.
À propos de texte et de musique, dans les années 70, vous avez connu à Bruxelles un poète musicien, Jacques Delauteur, c'est ça?
Vous le connaissez?
Non, mais j'ai lu des papiers où vous parlez de lui.
Ouais.
Disait des poèmes dans la rue, accompagné à l'accordéon.
Exact.
Est-ce qu'il vous a influencé, justement, dans la façon, vous, de travailler le texte sur la musique?
Il m'a terriblement impressionné. C'est-à-dire, j'étais encore il n'y a pas longtemps à Bruxelles, et pour moi, il y a des résurgences de cet être profondément poétique, une sorte de fou poétique totalement inspiré. Et il avait une manière de proférer ses textes par-dessus son accordéon, avec en jouant vraiment à donf quoi, dans les galeries de Bruxelles. Et il avait des textes connus. Il chantait des textes de Jean-Roger Caussimon, comme Au Stand, comme Ma Bohème d'Aznavour, des choses classiques, et si on veut. Et en même temps, il y avait ces textes qui sont très beaux, mais qui sont perdus en quelque sorte. Parce que moi, j'en ai quelques bribes en mémoire, mais curieusement, après sa mort, malheureusement, il a mis fin à ses jours dans un hôtel de Bruxelles. J'ai quelques bribes de ces textes, et pour moi, ça, c'est tout mon élan poétique qu'il y a là-dedans. L'image de cet homme, comment sa poésie, comment elle se répercute sur moi, c'est quelqu'un qui me, comme quelques-uns, mais c'est quelqu'un qui m'accompagne depuis très longtemps et qui est toujours très présent, quoi.
Quelle sorte de bribes il vous reste?
Des bribes, par exemple. Il dit « Apollinaire est mort, dit-on dans les écoles. Moi, je prétends qu'il vit, et par ma pauvre voix, écoutez-le, Verlaine ne peut pas être mort, et c'est un peu de vous, et c'est un peu de moi. » Et c'est etc. Ouais, c'est charmant. C'est important, quoi.
Justement, à propos de poésie, de texte, je lisais que votre père récitait du Victor Hugo à table. Oui. Depuis l'adolescence, vous êtes passionné vous-même de poésie, René Char Rimbaud. Quelle influence la poésie a pu avoir sur votre façon de prendre la parole? Avant même le théâtre, en fait.
Bah, écoutez, c'est vrai que mon père, il nous faisait de temps en temps, le dimanche à midi, il se lançait dans la conscience. Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides, au milieu des tempêtes, qu'un se fut enfui, etc. Et bien, vous savez, ce grand truc de Victor Hugo, qui est pas mal, hein, c'est toujours bien Victor Hugo. Quoi. Et moi, je trouvais ça, c'était le top, quoi. C'était vraiment bien de pouvoir avoir de la ressource en soi de propos poétiques. Et j'ai commencé à apprendre des poèmes pour le plaisir. Même avant d'être comédien, très jeune, j'ai pris. Et puis, la poésie, c'est de l'image. C'est comme du cinéma qu'on porte en soi. Donc, on peut être projectionniste de ces images-là quand on veut, même pour soi-même. Moi, ça m'arrive souvent, quoi, de temps en temps, des fois, le soir, même de me mettre à dire un poème pour moi seul, chez moi, quand tout le monde est couché. Je me fais un coup de dé, j'amène à Bolivie. Al-Mazar, par exemple.
De Mallarmé, oui.
Ouais, de Mallarmé, oui. Qui est réputé hermétique, moi, ça me plaît. Et puis c'est pour ces raisons, parce que j'étais sans doute, même certainement, très timide au niveau de l'expression orale. J'avais un atout au niveau de l'expression physique, de tomber, de faire de l'acrobatie, de cette expression-là, l'expression corporelle. Mais au niveau de la parole, c'est plus compliqué, parce que ça fait sens, toujours. Donc il ne faut pas dire n'importe quoi. Donc c'est, la prise de parole, c'est quelque chose d'infiniment délicat, je trouve, même encore aujourd'hui. Même pour dire des bêtises, quoi. Peut-être c'est la seule ressource. Et en même temps, j'avais ça en moi, de me dire, je sais pas où j'avais lu ça, tenu un truc comme ça, qu'il y avait des prisonniers, je sais pas, ben je dois avoir la hantise de l'enfermement, de l'incarcération, qu'il y avait des prisonniers qui avaient tenu le coup en prison, je sais plus à quelle époque, pendant la Révolution, par là peut-être, des types qui étaient enfermés, qui avaient tenu le coup en se récitant tout ce qu'ils savaient. Et donc c'est comme ça aussi, pour ça aussi, je me suis mis à être un réservoir de textes. Et puis que, ouais, j'en sais pas mal, quoi. Après, je peux pas les aligner, mais ils résurgent aussi, parce qu'ils sont liés à des émotions. Un texte poétique, on a envie de l'apprendre dans une situation émotionnelle, ou heureuse ou malheureuse. Mais ça marche avec ça pas mal.
Mamadou Diomandé, est-ce qu'il y a eu des techniques particulières, justement, pour porter la voix au théâtre? Parce que ce n'est pas la même chose que de parler dans la vie courante. Vous avez dû forcer à acquérir quelque chose? Son metteur en scène lui fait non, tu n'as rien fait.
Oui. Bon, ben, il n'y a pas eu de technique particulière nous concernant personnellement, puisque à l'état où nous étions encore des novices. Donc, on a seulement, on a fait que raconter nos histoires, comme on a l'habitude de le faire, quoi, dans la vie courante. On a raconté l'histoire comme on le faisait, voilà, comme on l'a fait avec le metteur en scène. Quand il est arrivé, il a communiqué avec nous. Vous savez, on lui a raconté nos histoires, et donc ce sont ces histoires-là qu'on a écrites, qu'il a écrites, donc, et qu'on a encore travaillé et qu'on a raconté au public.
Benoît Lagan.
Denis Lavant, comme à tous nos invités, nous vous avons demandé un son aussi que vous souhaitiez écouter. Voici ce que vous avez choisi. Identification de ce son et sa signification.
C'est des baleines.
Alors pourquoi les baleines, Denis Lavant?
Je sais pas, parce que j'ai entendu ça une fois. Et j'ai hésité ça entre un orgue. Parce que j'ai entendu une fois un instrument de musique, un orgue, je sais plus quoi, particulier, en verre, qui fonctionnait avec, ou je sais pas, avec des chalumeaux, qui avait un son très proche du chant des baleines. Et c'est quelque chose qui est quelque chose bouleversant. Et qui a, en fait, qui a un vrai moyen de communication à travers le liquide, à travers les mers, sauf quand c'est énormément parasité par les bateaux, toutes les saloperies qu'on a inventées, n'est-ce pas? Mais bon, c'est quand même elles sont bavardes, quoi. Elles se disent des trucs, les baleines, comme tous les animaux, je suppose. J'ai entendu dire récemment que les chevaux communiquaient par télépathie. Et que, oui, absolument. On s'en rend plus compte, mais avant qu'on ait des voitures, qu'on était beaucoup plus en contact avec le monde chevalin, et ben les gens, ils communiquaient sans le savoir, ils faisaient de la télépathie avec leurs chevaux sans le savoir. Là, avec les voitures, on a perdu un peu ce sens-là.
À propos d'animaux, Benoît.
Oui, à vos débuts au théâtre, vous avez beaucoup joué, je vous cite, essentiellement des non-hommes.
Ouais,
même votre premier rôle parisien, c'était celui d'un chien.
Absolument.
À quel moment
chien? Oui, dans une pièce qui s'appelait Adi et Di. de Yelena Kout, mis en scène par Viviane Théophilides. Un chien qui parlait,
normalement. Ah, quand même.
Ouais. Où on savait pas si son maître était ventriloque ou si c'est lui qui parlait. Quoi, il y avait une sorte de...
Mais à quel moment avez-vous basculé justement dans le théâtre de la parole?
C'est très très clair, c'est très simple. Mon premier rôle, réellement parlant et pensant, c'est j'avais l'âge du rôle en plus, ça tombe bien quoi. Pour moi, c'est vraiment un tournant, puis ça m'a importé beaucoup. C'était de la matériau russe. C'était une adaptation de Dostoïevski, montée par Jean-Louis Tamin, avec une distribution étonnante. Il y en a beaucoup qui sont morts depuis, même des jeunes. Il y avait Benoît Régent, il y avait Marc Delsarte, il y avait des anciens comédiens de Nice. Il y avait plusieurs générations de comédiens. C'était... Et moi, on m'avait confié le rôle d'Hippolyte. Non, pas Hippolyte. Hippolyte, s'il vous plaît.
Hippolyte, c'est autre chose.
Qui est un jeune anarchiste atteint de phtisie et qui, à un moment donné, il fait une grande déclaration dans une soirée chez le prince Mishkin, donc l'idiot, où il lit une sorte de testament, ou après moi le déluge, et il lit vraiment une sorte de profession de foi, où il dit qu'il est de conviction anarchiste, mais en même temps, il est charitable, quoi, ça n'empêche pas d'ailleurs, c'est pas antinomique, justement, et en fait, il va mettre fin à ses jours, parce qu'il se rend compte que, de plus en plus atteint par la phtisie, il est plus capable d'aider qui que ce soit, et donc il menace de mettre fin à ses jours. Il est très un peu agressif, un peu vindicatif, mais avait une grande conscience de lui-même. Et c'était une sorte de plaidoyer pour soi-même qui me convenait parfaitement. Et c'est vraiment, pour moi, c'est ma première prise de parole à travers un personnage, à travers une pensée russe en plus. Apollinaire est mort, dit-on dans les écoles. Moi je prétends qu'il vit, et par ma pauvre voix. Écoutez-le, Verlaine ne peut pas être mort. Et c'est un peu de vous, et c'est un peu de moi. Et c'est etc. C'est charmant.
C'est le coup des pieds qui est devenu le coup des maîtres.
Merci à nos invités. Olivier Coublon, Jabonkla, Camille Plany et Mamadou Diomandé. On vous retrouvera dans 81 avenue Victor Hugo, une pièce d'actualité au Festival d'Avignon les 23, 24 et 25 juillet. Denis Lavant, vendredi où les Lames du Pacifique, ce sera diffusé dimanche à 21h sur France Culture. L'album sera disponible lundi sous le label Pias. Et je rappelle que la pièce sera diffusée, présentée plutôt, public, au Festival d'Avignon, au public. Festival d'Avignon le 17 juillet. Au musée Calvé. Ouais. Et à propos de fiction, je signale que samedi soir, au studio 104 de la Maison de la Radio, il sera possible d'assister au concert fiction Dracula. Toutes les informations sont sur le site de l'émission. Tout ça, c'était pour aujourd'hui. Demain...
Tout est en désordre raisonné. Tout est justifiable par le détail des choses et pas par l'ensemble. On ne veut pas de répétition. Par contre, les fenêtres sont préfabriquées. Il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs matériaux. Et c'est le même prix.
Demain, une émission Archinature avec l'architecte Lucien Kroll et le paysagiste Louis Bénèche. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Aïssa Twenda et Elsa Béranger. Journal de la culture The Espèce, chronique Xavier Delaporte, à la prise de son Emmanuel Morse d'un camp et à la réalisation Thomas Beau.
Il est 19h55, vous êtes sur France Culture. C'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la comédie
française.
Alors bonne soirée à tous et à demain.